Un Big Bang en trois temps. Première déflagration, juin 2023. Google annonce son intention de révolutionner sa manière d'indexer et de présenter ses résultats en incorporant, je vous donne dans le mille, de l'IA. Seconde déflagration, octobre 2023. Google communique un planning. Vague, certes, mais c'est quand même assez rare de leur part pour le noter. Qui annonce le déploiement de cette version pour l'année 2024. Dernière déflagration, demain, après-demain, dans un mois, personne ne le sait. Mais ça va faire mal. Et si vous n'avez pas anticipé l'impact de cette révolution dans votre stratégie SEO, ça va vraiment tanguer.
Internet, c'est le nom des nouvelles autoroutes de l'information.
Today, Apple is going to reinvent the phone.
Facebook is an idealistic and optimistic company.
Il ne se déconnecte jamais.
Bonjour et bienvenue sur le podcast Digital Session, le podcast d'Altavia Jetpulp. Je suis Laurent Bourgeois, DG de l'agence et passionné par le digital depuis près de 20 ans. Je suis votre guide tout au long de ces épisodes. 30 minutes pour creuser un sujet tendance du digital avec un de mes experts. Vous êtes prêts? C'est parti! Aujourd'hui, je reçois Alain, lead SEO à l'agence et auteur de notre livre blanc sur le sujet du jour, disponible sur notre site web. Bonjour Alain!
Bonjour!
Eh bien écoute Alain, on est parti pour 30 minutes ensemble, à minima, on verra si on peut faire un peu de rab. Le sujet aujourd'hui, c'est la mise en place de la Google SGE. Est-ce que tu peux nous expliquer, Alain, ce que c'est que ce gros mot?
Déjà, donc ça veut dire Search Generative Experience. C'est déjà, avant de commencer, c'est quand même l'une des annonces les plus impactantes de Google sur la dernière décennie, si ce n'est la plus impactante, très clairement. Ça va changer radicalement la façon dont on va interagir avec Google et surtout avec cette première page. Grosso modo, donc c'est un encart IA qui va être placé au-dessus des résultats classiques.
Ouais.
Et donc, qui va contenir une multitude d'informations et de formats de contenu. Ça peut être du texte, ça peut être des produits pour des e-commerçants, ça peut être même des vidéos, des images. Et donc, il faut bien avoir en tête que cet encart, il va être tout de suite en haut de la première page.
Ouais.
Et donc, les résultats que l'on connaît aujourd'hui, ils vont être relégués en dessous.
En dessous. Exactement. Voilà. Et ce qui est important de dire tout de suite sur cette version que tu as pu tester, qu'on teste aujourd'hui, qu'on utilise en phase de test, elle n'est déployée nulle part à l'heure à laquelle on enregistre ce podcast. Elle n'est pas disponible aux États-Unis non plus, elle est en version bêta.
Exact.
Et nous aussi, on a accès à une version bêta, mais aujourd'hui, pour l'instant, pas de déploiement massif.
Exactement. Ça fait depuis mi-mai, donc ça fait plus de 9 mois maintenant. Toujours pas d'annonce de Google, on ne sait pas quand ce sera déployé. Probablement, ce sera déployé aux États-Unis en premier, puis dans le reste du monde par la suite. Mais pas de date. Donc, on est en phase de test. Nous, on a eu l'opportunité de commencer à tester ce nouveau Google une semaine après la mise à disposition aux États-Unis.
Ouais.
Et c'est à partir de là où on a pu commencer justement à voir ce qu'il en est selon les différentes intentions de recherche, les différents types de mots-clés.
Ouais.
Et donc, forcément, beaucoup d'enseignements déjà.
Ouais, parce qu'en fait, ce qu'il faut quand même expliquer aux gens qui nous écoutent, aujourd'hui, cette version, elle est quasiment fonctionnelle, puisque quand on fait nos tests, quand tu fais des tests pour nos clients et ainsi de suite, tu peux faire des vraies recherches dans l'interface et tu as les vrais résultats à date,
tout
tels qu'ils seraient présentés pour une requête faite à partir du moment où cette mise à jour sera déployée.
Exactement.
En fait, c'est tellement prêt qu'on se demande quand est-ce qu'ils vont appuyer sur le bouton, quoi.
C'est ça. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cet encart IA évolue un petit peu tous les jours. Ça
ouais.
veut dire que là, si je fais une recherche maintenant, à peu de choses près, je ne vais pas avoir forcément exactement la même chose demain.
Mm-hmm.
Donc, c'est le principe d'une version bêta. Hein. Google teste et voit comment on interagit avec cette version bêta. Mais ça change un petit peu tous les jours. Mais le tronc du nouveau Google, il est là, quoi, grosso modo.
Et donc, en fait, si on va rentrer après dans un peu plus de détails hein, sur qu'est-ce qu'on a pris, qu'est-ce qu'il va falloir anticiper dans les différentes stratégies. Mais aujourd'hui, si tu dois décrire, en fait, effectivement, ce que tu avais commencé à faire tout à l'heure, et je t'ai un petit peu coupé pour que les gens puissent se rendre compte de là où on en était. Globalement, en fait, là, c'est l'aspect visuel de la page qui change et ce qui va, en fait, nous impacter sur les stratégies de visibilité. Est-ce que tu peux redécrire, finir la description de cette page telle qu'elle va être construite, ou telle qu'elle est construite à date dans la version bêta de Google?
Oui, alors en fait, l'encart IA, grosso modo, alors différent forcément sur desktop et sur mobile, mais si on part sur desktop, en haut à droite de cet encart, on a un top 3 de résultats qui est mise en avant. Et on a la possibilité de défiler. Donc en fait, il n'y a pas uniquement trois résultats, comme nous l'avait montré Google au tout début, 9 mois en arrière. Mais en fait, on peut avoir jusqu'à 8 résultats quand on défile.
Il y a un scroll horizontal dans cette zone qui est à droite, un peu là où il y a aujourd'hui les résultats AdWords, en dessous des résultats de Google Shopping quand on a fait une requête produit.
Oui, alors c'est les résultats shopping vont être en haut. Ouais. Là, c'est vraiment l'encart IA qui va être juste en dessous, mais effectivement, c'est plutôt en haut à droite de l'encart.
OK.
Et après, sur la partie gauche, mon central, on a le texte. Alors, si on a une requête informationnelle, on a le texte en tant que tel. Si on a une requête plutôt commerciale, on va avoir des produits mis en avant et on y reviendra plus tard. Et puis après, grosso modo, on a un mode conversationnel tout en bas où on peut taper une question, demander à Google d'affiner vraiment quelque chose. Et sur mobile, c'est un petit peu la même chose. C'est juste qu'on a la réponse au début. On a le fameux top 3 qui est juste en dessous et après le mode conversationnel.
Donc ça veut dire que l'ergonomie de la page va être pensée et on a aussi, enfin là moi à première vue je ne les ai pas comptés, peut-être que tu l'as fait, mais il y a beaucoup moins de places et d'entrées potentielles vers tes résultats SEO. C'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui quand on dit il est important d'être présent sur la première page de Google, on va dire que potentiellement il y a les 10 résultats de Google, les 10 premiers en search. Parfois, il y a un peu de map. Parfois, en fait, on peut avoir plusieurs liens au sein d'un même résultat. Là, en fait, on est sur quelque chose qui est beaucoup plus épuré et où la partie conversationnelle prend énormément de place et relègue, fait diminuer le nombre d'entrées possibles, de positions possibles que l'on peut récupérer sur la première page, quoi.
Oui, effectivement. En fait, il y a quelque chose qu'il faut bien avoir en tête aussi. Et ça, c'est une différence par rapport il y a 9 mois. C'est que il y a 9 mois, cet encart IA, il était généré automatiquement. On n'avait pas le choix. On tapait le mot-clé, mettons lave-vaisselle, on avait l'encart qui était généré, qui prenait beaucoup de place dans la première page Google. Et là, 9 mois après, au final, l'encart, on a un bouton généré et il faut cliquer sur le bouton pour que ça se déplie. Et parfois, dans un deuxième cas de figure, l'encart est semi-déplié et il faut cliquer sur un « lire la suite » pour voir le reste. Donc ça veut dire que il y a 9 mois, c'était vraiment radical. Et là, on voit que Google, il y a un entre-deux, grosso modo, ce qui augmente, du coup, ce qui rehausse les résultats que l'on connaît aujourd'hui. Et sur de plus en plus de requêtes, en tout cas d'après les tests qu'on effectue, au final, l'encart n'est pas déplié automatiquement. On a de plus en plus le seul bouton généré. Il faut vraiment cette action-là pour que l'encart soit déplié. C'est une vraie différence par rapport à il y a 9 mois.
Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de se projeter sur ce que l'on a là aujourd'hui. Et je pense que c'est assez logique d'expliquer aussi effectivement ce que tu fais là, actuellement, de dire que c'est quelque chose qui bouge. Ce qui est intéressant, c'est que c'était extrêmement flippant au mois de juin l'année dernière parce que c'était très radical. Je pense que derrière, il y a toute une batterie de tests qui sont faits. Ils ont vu que derrière, en termes de monétisation, c'était un peu problématique. Donc, ils sont en train de revenir un petit peu vers quelque chose d'un peu plus... comme on le connaît aujourd'hui, même si effectivement fondamentalement ça va changer. Est-ce que tu peux nous partager les 3 enseignements que toi tu as tirés, les principaux, suite à ces tests que tu fais depuis 9 mois sur cette version bêta de Google?
Oui, alors la première chose déjà, et ça c'est une vraie différence, puisque quand Google a présenté ce nouvel encart il y a mi-mai, grosso modo, en tout cas personnellement, je pensais que les requêtes n'allaient pas s'afficher de partout. Enfin, que l'encart n'allait pas s'afficher à chaque fois. Et là, en fait, ce qu'on constate, c'est que l'encart IA, il apparaît quasiment sur toutes les requêtes. Il y a des exceptions dans certains secteurs, mais généralement, il apparaît soit avec un bouton généré, soit semi-déplié.
Ouais.
Donc là, c'est quasi systématique.
Systématique. Donc, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, en fait, cette place sera prise. Après, il faut voir quelle est la place, enfin, la taille que va prendre l'encart pour les résultats.
Exactement. Okay. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le fameux top 3 IA qui est présent tout en haut à droite sur desktop, en fait, si on analyse les sites qui y sont présents, il y a une vraie différence par rapport au SEO classique. Ça veut dire que les sites qui sont très bien positionnés aujourd'hui ne sont pas forcément présents dans le top 3 IA. Et ça, c'est une grosse annonce. D'ailleurs, il y a une étude qui a été publiée il y a quelques mois qui montre que dans plus de 90% des cas, les acteurs bien positionnés ne sont pas présents dans le top 3 il y a.
Ce qui est une grosse différence par rapport à ce que l'on a pu connaître avec les People Also Ask, qui sont les résultats en fait dépliables de Google. Je ne sais pas si tout le monde le voit, mais globalement, c'est quand vous posez une question généralement à Google ou quelque chose qui ressemble à une question, vous avez des liens qui vont préciser en fait votre question. Vous pouvez le déplier pour pouvoir avoir un élément de réponse qui s'affiche directement dans votre résultat de recherche. Et ça, dans cette partie-là, les People Also Ask, c'est généralement du top 5. C'est des résultats issus du top 5 qui sont remontés, qui sont mis en accès direct, mais c'est pas des gens qui sont hors top 10. Alors là, ce que tu nous dis, c'est un point qui est très important, ça veut dire que cette nouvelle place de choix, parce que on est tout en haut de la page, donc ça veut dire que c'est ce que Google vend habituellement en paid, et c'est là où on se bat tous pour être dans le top 3 de Google. Et ben cette place là, elle est, comment dire, régie par un classement, une méthode de classement qui n'est pas celle que l'on connaît sur les résultats qu'on appelle les liens bleus. C'est les liens qui sont sur votre gauche, hein, vous avez les liens empilés sur le côté.
Exactement. Et en fait, on y reviendra par la suite, mais parfois, l'intention de recherche n'est même pas la même. Le type de contenu n'est pas le même. Donc sur un résultat e-commerce, par exemple, on tape lave-vaisselle, on tombe sur des pages catégories. Et ben dans le top 3 IA, on va pas avoir des pages catégories. On va avoir des guides d'achat. Comment choisir un lave-vaisselle, par exemple? On peut même aller jusque-là. C'est vraiment un élément à part.
Ouais, et en fait, c'est un élément où, au final, Google cherche à générer une conversation, en fait, un échange, et donc, en fait, il pousse du contenu qui va générer de l'interaction avec son IA et pour vous, annonceurs, en fait, une interaction aussi avec la marque et au contenu que vous avez publié sur votre site. Donc ça, c'est un point important. Et donc, le troisième, c'est un point que tu as abordé tout à l'heure, je crois, hein, c'est le fait que c'est pas un top 3.
Exactement.
Cet emplacement de choix, ça va plus loin que ça.
Exactement. Alors, ce n'est pas tout le temps le cas, mais parfois, on peut avoir plus de résultats, 5, 6, 7, 8, ça dépend. C'est vrai, quand on avait eu les premières captures d'écran en mai, on avait vu un top 3, mais en fait, c'est vraiment un scroll horizontal, quoi.
Ouais, donc c'est vrai qu'il y a un peu plus de places qui seront disponibles.
C'est okay. Ça.
Ça, c'est effectivement le point qui est important. Et aujourd'hui, en fait, quels sont les mots-clés? Parce que tu disais que tout à l'heure, ce n'était pas tout à fait généralisé partout. Enfin, c'était en passe de lettres. Mais il y a des mots-clés, en fait, ou des typologies de mots-clés qui ne sont pas impactées pour l'instant sur cette bêta, où, en fait, l'IA ne vient pas prendre de la place. Est-ce que tu peux nous donner, en fait, quels sont les mots-clés en question?
Alors, c'est très variable, mais généralement, là où on peut avoir uniquement un bouton généré, par exemple, ça peut être les secteurs, par exemple de l'immobilier, de l'assurance. Alors, dans l'assurance, il n'y a carrément pas de bouton généré. Hein. Donc là, c'est vraiment totalement absent.
Ça ne serait pas les secteurs où il y a les plus gros CPC, non, AdWords?
Si, c'est possible.
Plombier ou pas? Plombier, serrurier.
C'est pas le CPC à 50 centimes,
ouais,
très clairement.
Je ne sais pas. C'est régi par une logique financière derrière.
C'est ça. Mais en tout cas, oui, il y a des secteurs qui sont plus enclins que d'autres à avoir cet encart. Et après, comme je le disais, sur des mots-clés très génériques, d'après ce que l'on voit ces dernières semaines, au final, Google tend uniquement à afficher le bouton « Générer ». Aussi. Donc ça, à voir comment ça va évoluer, hein, c'est pas fixe pour l'instant.
Ok, c'est très clair. Et est-ce que, justement, quand ces mots-clés ne s'affichent pas, c'est aussi lié à ce que tu disais, quand on a préparé ce podcast, tu appelais ça les intentions d'achat. C'est-à-dire qu'en fait, on peut classer aussi, au-delà du secteur, en fait, différents comportements en fonction de l'intention d'achat. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est qu'une intention d'achat et comment est-ce que une intention de recherche, pardon, pas une intention d'achat, depuis tout à l'heure je dis intention d'achat, mais c'est pas ça, c'est intention de recherche. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que ces différentes intentions de recherche?
Oui, en fait, ça dépend vraiment des typologies de mots-clés et les résultats qu'on peut trouver en face. Par exemple, une intention informationnelle, ça va être la recherche d'informations. Donc,
okay.
Tout simplement, la requête commerciale, ça peut être forcément on recherche un type de produit, donc ça peut être meuble TV, perceuse, etc. On peut avoir une intention aussi navigationnelle quand on a le nom de la marque, basket Nike par exemple. Donc c'est surtout ces intentions qu'on va creuser aujourd'hui.
Ok, et donc en fait, si on prend la première, celle qui est peut-être la plus loin de l'acte d'achat, de transformation finale, qui serait une recherche informationnelle. Est-ce que tu peux nous donner des exemples de recherche informationnelle et comment est-ce que justement la page de Google se comporte et comment est-ce qu'on peut proposer à nos internautes à nos auditeurs, pardon, bah décidément, à nos auditeurs d'optimiser pour anticiper cette mise à jour.
Ouais. Alors, déjà, concernant l'intention de recherche informationnelle, on va prendre un mot-clé très simple, comment réparer un frigo qui ne fonctionne plus, par exemple. Là-dessus, c'est très simple, on a un encaria qui s'affiche avec une multitude d'informations. Donc avec vraiment des conseils pour réparer justement un frigo. Donc il y a des étapes, hein, comme dans un contenu, des titres, et en dessous de chaque titre, il y a une petite description. Et puis en dessous, après, on a vraiment des infos complémentaires, par exemple de coûts, combien ça coûte pour réparer un frigo, et ainsi de suite. Et puis on a le top 3 IA.
Voilà. Ouais, là, il faut quand même bien dire aux gens qui nous écoutent, parce que je vois l'écran que tu partages devant moi, on est en fait sur un écran desktop, et sur desktop, il y a 80% de l'espace au-dessus de la ligne de flottaison, hein, donc l'écran oui. qui est affiché, qui est occupé par ce pavé de texte sur fond bleu qui vous donne toutes les informations pour dire, OK, comment est-ce que vous pouvez diagnostiquer vous-même la casse et la panne de votre frigo ou de votre lave-vaisselle et la méthode à faire, quoi. C'est assez précis, quoi. Il y a rien à déplier, tout est là, quoi.
C'est ça. Alors en fait, sur une requête comme ça, alors ça dépend encore une fois les jours, hein. Généralement c'est semi-déplié, ça dépend les requêtes. Donc il faut vraiment cliquer sur lire la suite pour voir tout l'encart. Ouais. Alors on peut décider de ne pas interagir avec l'encaria également, hein, et utiliser uniquement le SEO classique comme c'est le cas aujourd'hui. Mais en l'occurrence, quand l'encaria est déplié, ça prend énormément de place, ouais, effectivement.
Ça peut être la totalité. Et donc ça aujourd'hui, ce contenu-là, comment est-ce qu'il est généré? Est-ce que on peut arriver à ranker, nous, quand on est une marque à l'intérieur? Comment est-ce qu'on peut optimiser la partie SEO sur ces jeux-là?
Google, de toute façon, se base sur les différents contenus qu'il a à disposition, donc des contenus qui sont indexés sur son moteur, et grosso modo, il va faire un mix avec son IA. Il y a quelque chose qui est important aussi, c'est que selon les parties du contenu qui est généré, on a une petite flèche vers le bas. Et quand on clique sur cette flèche, eh bien, on a un top 2, 3 ou plus de sites qui abordent le sujet. Donc, si je prends un autre exemple, de la santé. D'ailleurs, pendant longtemps, on pensait que dans la santé, Google n'allait pas afficher l'encaria. Eh bien, si, il l'a fait, quelques semaines après le lancement de la version bêta.
Pour des problématiques d'allégations médicales, notamment, c'est très réglementé en France. C'est pour ça qu'on s'était dit, il ne va jamais lancer son IA à générer des contenus. Ça risque d'être un peu dangereux pour lui.
C'est ça. Eh bien, il l'a fait. Il l'a fait. Eh bien, là-dessus, si on prend, par exemple, je ne sais pas comment soigner un rhume, là-dessus, on va avoir un premier conseil qui est donné. Eh bien, on peut avoir cette flèche-là. Et pour approfondir ce premier conseil, on va avoir une liste de sites, et ainsi de suite. Donc, en fait, c'est une vraie opportunité pour nous d'aller se positionner très clairement dans ces endroits-là et d'être présent au maximum dans ces espaces qui sont dédiés.
Et ce qui est intéressant, c'est que donc dans ces requêtes informationnelles, donc on est plutôt vraiment sur le début du tunnel d'achat, en fait, on a visiblement les mêmes règles de référencement que sur le contenu classique. C'est qu'aujourd'hui, c'est du contenu unique, il y a une volumétrie de mots minimum à avoir, enfin... On révolutionne pas la méthode de ranking sur ces requêtes-là et dans ces espaces-là. Ils sont juste moins visibles qu'avec les résultats actuels, mais c'est la même méthode.
Alors là-dessus, je suis un peu partagé, puisque d'après ce que j'ai vu, c'est un mix des deux. On peut avoir de très bons sites qui se positionnent là-dedans, mais aussi des sites qui sont en 5e page, 8e page, qui rankent dans ces encarts-là. Et en fait, ce qui se passe, et c'est d'ailleurs... l'une des parties du plan d'action sur comment on fait pour être positionné sur cet espace-là, eh bien, grosso modo, même si un contenu est présent en 8e page, il aborde peut-être un élément que les autres contenus n'abordent pas. C'est pour ça que c'est important. Bah, c'est une notion qui est directement liée au concept d'EAT, hein, EEAT même, hein, ouais. Expertise, expérience, autorité, confiance, sur le fait d'apporter un contenu unique à l'internaute. Eh bien, quand on apporte un contenu unique, on a des infos uniques. Et ça, Google peut le voir. Et donc, du coup, même si on a un contenu, bon, mettons qui est pas sur un gros site, par exemple, qui est en 8e page, eh bien, s'il aborde une notion que les autres sites n'abordent pas, eh bien, Il y a une possibilité
de ranker.
Exactement.
En fait, ce qui est super intéressant, c'est que ça donne plus de poids à l'expertise, parce qu'au final, dans cette structuration, on a une sorte en fait de SERP, en fait, de page de résultats intermédiaire, ultra précise, où si vous êtes très bon en très longue traîne, par exemple, avec des requêtes très précises, aujourd'hui, vous rankez pas ou vous rankez que sur des requêtes qui sont très longues et qui ne sont jamais tapées. Sauf que là, en fait, Google va aider l'internaute à affiner sa recherche sans changer de page. Et donc, en fait, vous avez une possibilité de ranker quand l'internaute va aller chercher un peu plus d'informations sur un sujet. Et si vous êtes expert là-dedans, hop, il va vous remonter.
C'est ça, exactement. Et c'est en lien avec ce que je disais tout au début. Parfois, on a beaucoup de sites qui mal positionnés, qui arrivent à être positionnés dans l'encaria. Donc, c'est une vraie opportunité.
Ok. Donc, en fait, si on doit synthétiser le propos sur ce type de requête-là, globalement, on a visuellement un encart qui prend là, dans ce cas-là, beaucoup de place. C'est la version en fait qui va prendre le plus de place dans ce que tu as vu. On a des règles pour se positionner qui sont toujours régies par les mêmes règles que l'on connaît aujourd'hui, mais qui ont plus d'opportunités parce que Google va vouloir garder le maximum de temps l'internaute sur sa page de résultats. Donc, en fait, il va aller leur permettre de faire des recherches complémentaires à l'intérieur de parties de contenu automatiquement générées par l'IA, avec des petits encarts de fuite vers les sites des annonceurs et des gens qui ont des sites externes comme les gens qui nous écoutent. Et donc, ça veut dire qu'on a plus de... On a plus de travail à faire, nous, en tant qu'agence SEO, pour accompagner nos clients, pour travailler leur EAT. Le fait de produire du contenu unique, de qualité, parce que ça va être le plus d'options, enfin, on aura plus d'options pour pouvoir être visible à cet endroit-là.
Exactement. Alors, effectivement, le concept de EAT, on en a déjà parlé par le passé, mais c'est vrai qu'il prend de plus en plus d'importance. C'est un des éléments du plan d'action aussi, d'aller voir ce que font les acteurs qui sont cités dans l'encaria, et pas forcément aller chercher un peu partout. Il faut vraiment se concentrer sur, vous tapez votre mot-clé principal, et puis après, il y a des notions qui sont abordées, et d'aller creuser chaque notion, de regarder ce que tous les sites pour chaque notion font, tout simplement, et là-dessus, c'est la meilleure méthode pour être présent le plus de fois possible dans cet encaria.
Bref, il y a encore du taf, quoi.
Oh oui, très clairement.
Bon, si on se rapproche un peu plus du business, et notamment pour les e-commerçants, on part sur les requêtes avec une intention commerciale. Donc, si on prend l'exemple, la vaisselle, on était dans le ménager, on va continuer. Si je tape juste la vaisselle aujourd'hui, c'est une requête que l'on va qualifier d'intention commerciale.
C'est ça, exactement. Alors là-dessus, changement aussi radical. C'est assez incroyable puisque aujourd'hui, quand on tape lave-vaisselle, on tombe sur des listings produits, tout simplement.
Avec du shopping. Voilà.
Effectivement, voilà. Du Google Shopping, donc payant, et puis en dessous, vraiment les listings produits. Et donc, demain, on va avoir un encaria. Où on va avoir une petite description. Donc, quand on tape lave-vaisselle, grosso modo, il va y avoir des éléments de choix. On peut choisir un lave-vaisselle selon son design, selon les caractéristiques, etc. Et puis, en dessous, et là, c'est la vraie nouveauté, on va avoir une sélection de produits qui peut aller de 5 produits à 10 produits que Google aura choisi. Donc, on peut avoir, mettons, 10 lave-vaisselle. Et sur chaque lave-vaisselle, quand on va cliquer sur un lave-vaisselle, on va avoir une petite fenêtre qui va s'ouvrir. Et là, on va avoir une liste de marchands qui proposent ce lave-vaisselle. Et donc ça, c'est du Google Shopping organique. Et donc, c'est une notion qui est fondamentale pour l'e-commerce, puisque il faut bien avoir en tête qu'aujourd'hui, le Google Shopping organique n'est pas généralisé. Ça veut dire que au sein même, par exemple, de l'agence, moi, sur mon navigateur, je peux faire une requête.
Quand tu es sur la bêta.
Voilà. Alors là, c'est même, on sort du nouveau Google.
D'accord.
C'est, mettons, aujourd'hui,
okay.
Sur le Google actuel. Je peux taper une requête sur mon ordinateur et quelqu'un d'autre dans la même pièce peut le faire. Eh bien, moi, je peux avoir un affichage avec le Google Shopping organique et l'autre, non.
Okay.
Et donc, le Google Shopping organique aujourd'hui, déjà, donc hors nouveau Google, comment ça se présente, c'est vous tapez votre mot-clé et vous avez des grilles de produits au sein de la première page Google. Il peut y en avoir deux ou trois répartis au sein de la première page. Et quand vous allez cliquer sur un produit, il va y avoir justement une fenêtre qui va s'ouvrir et cette possibilité de sélectionner le site marchand. E-commerce. Voilà, exactement. Donc ça, c'est un concept qui est déjà présent en France, mais qui n'est pas généralisé. Donc très probablement, il va l'être dans les prochains mois ou dans un futur proche. En tout cas, c'est possible. Et ça, c'est un concept qui est déjà présent depuis 2020 aux États-Unis. Donc c'est pour ça qu'il faut bien avoir en tête que déjà, aux États-Unis, on a un affichage qui est en avance, qui est différent donc que ce que l'on peut avoir dans le reste du monde. Donc, cet affichage-là, donc cette méthode-là du Google Shopping organique, est déjà présente aux États-Unis, est en train de migrer dans le reste du monde, dont la France, et fera partie intégrante du nouveau Google sur des requêtes commerciales. Voilà.
Ok, donc en fait, ce qui est super intéressant, c'est de se dire que aujourd'hui déjà, on a possiblement le déploiement de certaines features de la Google SGE. Et que ces encarts produits, comment est-ce que tu fais pour y être présent? Parce qu'en fait, aujourd'hui, on a des clients qui rankent et d'autres qui ne rankent pas dedans. Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'on fait pour optimiser cette visibilité-là et déjà, en fait, anticiper puisque ce sera généralisé avec l'SGE?
Oui. Alors, typiquement, on a déjà commencé à faire des tests sur nos clients et certains sont bien concluants. Typiquement, le but, c'est d'avoir votre produit en première place, mais au sein du Google Shopping organique. Donc, quand on clique sur un produit, vous avez une liste de marchands, le but, c'est d'être en premier, forcément. Là-dessus, il va y avoir un travail conjoint entre le SEO et le SIA. Pourquoi ? Puisque le Google Shopping organique, eh bien, en fait, il est géré dans le Google Merchant Center, soit l'outil où on gère des campagnes payantes, donc Google Shopping. Tout se passe ici. Sauf que le Google Merchant Center, bah, c'est du SIA, bien évidemment. Et bien là, il va y avoir un travail de synergie qui va être encore plus important entre le SEO et le SIA. Et donc, comment ça se passe? Comment on fait pour être premier? Alors, il y a plusieurs pistes. La première chose, c'est que ça paraît bateau, mais dans le flux produit, parfois, il n'y a pas tout le contenu de la page.
C'est ça.
C'est déjà arrivé. Il faut bien s'assurer que le contenu qui est présent sur votre fiche produit, eh bien, en fait, il est bien présent dans le flux.
Les descriptifs également. Produits,
l'enrichissement
les
de contenu,
et ainsi de suite, les textes sémantiques que jusque-là, ben, les personnes qui font du SIA, ils s'en fichent un peu, parce qu'ils ne l'utilisent pas, en fait, dans les affichages, et ça ne générait pas de ranking particulier. Là, en fait, aujourd'hui, on est en train de dire qu'il faut enrichir de façon assez massive son flux pour qu'il serve à la fois le SIA et le SEO.
Et
parce
le
que
SEO
c'est la même source.
Exactement. Donc, c'est un vrai défi. Et après, bon, il y a d'autres méthodes. Hein. Il faut bien s'assurer d'avoir l'ensemble des attributs dans le titre du produit, que les attributs soient dans le bon ordre. Il y a des sujets purement de taux de clic, d'avoir des images de bonne qualité. Mmh. C'est important d'avoir des images qui donnent envie aussi, notamment dans le secteur de l'habillement,
ouais.
Très clairement. Enfin, il y a plein de méthodes comme ça. Qui permettent justement d'améliorer son positionnement dans le Google Shopping organique.
Ouais, c'est, en fait, il y a plus de. En fait, on a une sorte de frontière qui est en train de tomber entre les stratégies pure player SEO et pure player SIA, où, ben, en fait, aujourd'hui, nous, on a des. Enfin, ton homologue, Thibaut, chez nous, qui s'occupe des campagnes SIA, ben, travaille avec toi sur stratégie combinée SEO-SIA parce que, ben, effectivement, on doit enrichir. Le flux pour pouvoir servir ces deux objectifs. Quoi.
Exactement. Ça va au-delà de la synergie. Maintenant, pour moi, c'est une obligation de travailler ensemble. Le flux sur le Google Merchant Center, donc Google Shopping, doit être nickel chrome pour que ça performe bien en payant et en organique. Et typiquement, le Google Shopping organique, donc on le retrouve sur des requêtes commerciales, mais aussi navigationnelles. Donc demain, vous tapez par exemple basket Nike, lave-vaisselle Bosch, etc., tout ce qui comprend la marque. On a aussi des produits qui sont présentés, mais pas forcément de la même manière.
C'est graphiquement.
Voilà, graphiquement. Mettons, vous tapez basket Nike, sur desktop, vous avez 25 baskets Nike qui sont présentées. C'est juste énorme. C'est grosso modo 5 lignes de produits qui sont présentées sur desktop. Ça prend un peu moins de place sur mobile. Mais ça reste du Google Shopping organique, en tout cas.
Ouais, donc ça veut quand même dire qu'aujourd'hui, voilà, c'est aussi une vraie opportunité, je trouve, pour les e-commerçants, parce que il y avait plus d'entrées. Contrairement aux informationnels qu'on a vu juste avant, où là, il y avait moins de possibilités visibles en un clic d'accéder à des produits et au site de nos clients. Là, en fait, on a plus d'options pour pouvoir ranker, puisqu'au final, si on a 3 liens par produit, on a quasiment une centaine de liens disponibles sur cette page de résultats sans avoir besoin de naviguer entre les pages de Google. Donc, c'est plutôt une bonne option.
À condition d'être présent quand même pas mal de fois au sein des produits, ça veut dire que quand on a 25 produits, si on est présent que sur 2 produits, là, ça va être compliqué. D'où cette volonté d'être premier sur le maximum de produits en Google Shopping organique. Il y a un vrai sujet pour l'e-commerce.
Ok. Non, mais c'est super intéressant. Et donc, effectivement, voilà, si on doit synthétiser ce point, on va faire en un mot: optimiser votre flux. Donc, il faut le travailler, le compléter, l'alimenter, lui mettre des keywords à l'intérieur, le contenu unique qui va bien. Enfin, bref, vous reprenez les basiques de Google que vous utilisez depuis 15 ans, et ben en fait, vous les appliquez à votre flux Google Shopping et vous le branchez sur la partie organique de votre Google Merchant Center.
C'est ça. Combiné avec un peu de technique, donc des données structurées, c'est important. Toujours l'aspect EEAT. Et là, effectivement, c'est une bonne stratégie.
On est bien. Bon, super. Dernier type de requête qui existe, qui est un peu plus spécifique parce qu'elle ne concerne pas tout le monde non plus d'un point de vue business, mais tous ceux qui ont un réseau, oui, c'est ce qu'on appelle les intentions de recherche locales, donc qui précisent une localité à l'intérieur. Donc ça se passe comment là dans le nouveau Google quand on fait ça ?
Eh bien, c'est sans doute l'intention de recherche qui est le moins impactée ou qui apporte le moins de valeur. Si on tape typiquement « avocat New York », ce qui se passe, c'est que on a une liste de 5 cabinets qui sont présentés, avec tout en haut toujours un top 3 ou même voire plus de résultats. Et donc en fait, la liste des 5 cabinets sont repris du Google My Business.
Ouais.
Google My Business qu'on retrouve en dessous de l'Encaria. Et ce qui se passe, c'est que la liste des cabinets d'avocats qui sont mentionnés dans l'Encaria, en fait, c'est les mêmes que dans Google My Business en dessous.
On voit très clairement que c'est pas là où pour l'instant Google a mis beaucoup d'efforts, et on a en fait juste une représentation graphique qui est différente et un peu plus de contenu qui apparaît. Donc voilà, il faut sonner les descriptifs de ces fiches Google My Business parce qu'elles sont reprises automatiquement sur ces pages-là. Mais on va pas s'y attarder trop longtemps parce qu'au final, il n'y a pas beaucoup de changements à ce niveau-là. Donc ceux qui sont sur du commerce local, pas de panique pour l'instant, il n'y a pas d'impact significatif chez vous. Sauf si vous faites de l'e-commerce en plus, et là on a vu juste avant qu'il fallait effectivement bosser un peu différemment. Le temps file, Alain, on est très bavard parce que moi aussi j'adore le SEO. Est-ce que tu peux nous donner les impacts, si on doit synthétiser, tu vois, notre discussion depuis une petite trentaine de minutes là, si tu dois synthétiser les impacts sur le SEO et quels sont les plans d'action à mettre en face quand on veut anticiper la SGE?
À l'impact SEO, c'est la grande question. Il y a eu plusieurs études qui ont été publiées pour justement essayer d'analyser tout ça. Beaucoup annoncent une baisse mécanique, puisque forcément les résultats SEO classiques sont relégués en dessous. Mais ça, comme je l'ai dit, on a quand même un encart qui parfois est semi-déplié. Parfois, il faut appuyer sur le bouton générer. C'est quelque chose que Google renforce au fil des mois. Donc, l'impact va être très variable, j'ai envie de dire. Surtout, le point clé, ça va être comment les internautes vont interagir avec cet encaria. Et ça, personne ne peut vraiment le prédire. Il va falloir que ça sorte en live. Et à partir de là, vraiment, on pourra dire si ça baisse, si ça baisse de combien, et ainsi de suite.
Voilà. Sachant qu'effectivement, on sait quand même que Google, aujourd'hui, s'y met si longtemps à déployer et qu'on est, on a accès à des versions mises à jour quasiment de façon hebdomadaire d'un point de vue rendu graphique, c'est aussi qu'ils sont en train de tester pour voir comment fonctionnent les versions bêta. Ok, donc ça c'est très clair, c'est de dire qu'aujourd'hui il y a quand même une grosse incertitude qui est liée en fait à l'impact. On sait qu'il y aura un impact, mais il sera plus ou moins grand suivant le type de déploiement et le type de requête sur lequel nos auditeurs rankent. Sur l'e-commerce, est-ce que, parce que là on a besoin aujourd'hui quasiment fondamental pour un e-commerçant d'avoir un SEO fort vu les coûts d'acquisition et les taux de clics, enfin les coûts de clics sur les différents canaux d'acquisition. Donc comment est-ce que ces gens-là, cette population-là, peut se prémunir et anticiper le déploiement?
Bah, déjà, ce qu'on peut voir sur l'e-commerce, c'est qu'on va avoir très clairement une bascule du trafic des pages catégories, donc des listings produits, vers des fiches produits.
Ouais, entrer directement, en fait, des entrées en profondeur, quoi, direct.
Exactement. Ouais. Donc, quelque part, on pourra peut-être avoir des pertes de trafic, mais, et ça c'est très important, il va y avoir un trafic plus qualifié, puisque du coup, il y aura plus de trafic vers des fiches produits, donc plus bas du tunnel de conversion. Et donc ça, c'est important. Donc c'est aujourd'hui, vraiment, quand on tape un mot-clé, on a systématiquement des listings produits. Ouais. Sauf que demain, avec l'encart IA, avec le nombre de produits qui sera présenté dans l'encart, forcément, la bascule du trafic, pour moi, elle est inévitable.
Donc en fait, si tu dois donner un conseil aux e-commerçants, j'imagine un e-commerçant qui a une capacité de production de 20 ou 30 000 mots-clés mensuels. S'il a une roadmap de production de contenu unique, priorise les fiches produits, tes top produits, plutôt que de prioriser les pages catégories qui étaient aujourd'hui, en fait, les pages que l'on préfère optimiser parce que c'est celles qui génèrent le plus de trafic, parce que c'est celles où il y a le plus de portes d'entrée. Demain, ça ne sera plus le cas.
Oui, c'est clair. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne faut pas rédiger de contenu sur les pages catégories, mais en tout cas, oui, qu'il faut allouer plus d'efforts.
Ouais, sur les pages produits.
Exactement, sur les fiches produits pour avoir vraiment un contenu unique qui se détache des concurrents.
Ouais. Parce que il faut quand même se dire qu'aujourd'hui, dans le, on va dire le SEO 2023, on va dire, même si on est déjà depuis quelques mois en 2024, mais dans le SEO qu'on faisait ces derniers mois, la priorité était quand même donnée à nos optimisations, notamment sémantiques, sur les pages de listing de produits, plus que les pages produits, ou alors ces produits stars. Enfin, c'est des produits qui ont une forte demande ou qui sont très clairement identifiés. Voilà. Là, l'idée, c'est de dire, attention, demain, commencez à rééquilibrer tout ça, et il faut que vos 25 ou 30% de produits qui sont les meilleurs produits soient vraiment très optimisés d'un point de vue SEO avec du bon contenu unique et ainsi de suite. Parce que demain, vous allez avoir plus de visibilité directement sur ces pages-là.
C'est ça, exactement. Je pense qu'il y a des secteurs qui vont être plus impactés que d'autres, puisque on le sait, dans le secteur, par exemple, de la pharmacie ou autre, on a naturellement beaucoup de demandes qui mènent vers des fiches produits.
Ouais.
Par contre, sans doute dans la majorité des secteurs du e-commerce, les recherches mènent vers des listings produits. Si on prend l'ameublement, l'habillement, etc., on tombe sur des listings produits. Et donc, dans ces secteurs-là, les e-commerçants ont tout intérêt à travailler effectivement leur top fiches produits, leur best-seller, là où ils veulent pousser, puisque ce sera juste fondamental pour générer du chiffre demain en SEO.
Très clair. Si on doit terminer notre discussion, est-ce qu'aujourd'hui, une agence SEO peut se revendiquer comme étant experte de la SGE? On sait exactement comment ça va se passer?
Personne ne sait exactement comment ça va se passer. Hein. C'est toujours en phase de test pour le moment. Je pense qu'il va falloir attendre, en tout cas, que la SGE sorte pour vraiment se faire une opinion. Mais par contre, et ça, c'est quelque chose que l'on travaille depuis le mois de mai, hein, depuis qu'on a accès au nouveau Google, le mot clé, c'est l'anticipation. C'est-à-dire que, oui, il faut attendre le nouveau Google, effectivement, pour en voir comment ça va se formaliser en termes de trafic, etc. Mais il faut absolument anticiper. C'est pour ça qu'on effectue des tests depuis tout ce temps, qu'on regarde un petit peu comment ça se passe pour déjà, bah, en l'occurrence, accompagner nos clients sur ce sujet-là.
Ouais, on est obligé, en fait, aujourd'hui de se dire que la R&D est importante et que on arrive, en fait, c'est peut-être un peu frustrant pour vous, hein, mais ça l'est aussi pour nous, on arrive à définir des grands comportements. Donc, on sait, en fait, la direction dans laquelle on doit aller. Mais aujourd'hui, on n'est pas en capacité de pouvoir être très fin dans les optimisations puisque, bah, effectivement, il faut pouvoir les tester. Et ça, aujourd'hui, en fait, on voit quand même que l'algorithme n'indexe pas, enfin, la nouvelle version n'indexe pas les contenus aussi vite que l'ancienne, qu'il n'y a pas eu encore complètement cette bascule. Donc, forcément, on est toujours dans cette phase de R&D, mais on a un axe de travail qui a clairement été identifié. Voilà, on vous les a donné, le listing produit, notamment à travailler et optimiser. Très bien. Ben, nous arrivons à la fin de cet épisode. On a fait un peu plus de 30 minutes. Écoute, merci à toi, Alain, d'avoir passé ce temps en ma compagnie. J'espère que tu as passé un bon moment.
C'était un plaisir.
C'est top. Et où est-ce que les gens qui nous ont écoutés, peuvent te contacter ou te suivre si tu partages un peu de contenu pour continuer la discussion du jour?
Eh bien, directement sur le blog de Jet Pulp ou sur LinkedIn.
Et ben voilà, ça c'est parfait. Et ben écoutez, merci à vous tous de nous avoir suivis pendant cet épisode. Je vous donne rendez-vous donc le mois prochain pour une nouvelle digital session. Si entre-temps vous souhaitez qu'on reste en contact, et ben je vous invite, comme Alain, à me retrouver sur LinkedIn et puis aussi sur le blog de JetPulp où vous avez tout un tas de contenu qui est à votre disposition. Je vous dis donc à très bientôt. N'oubliez pas aussi de vous abonner au Retail Session, le podcast d'Altavia Aura. Vous y retrouvez tous les sujets de la communication qui méritent d'être creusés. Un grand merci donc à toi Alain, à très bientôt, et un merci aussi à Jean-Sébastien de Little Bird pour la production de ce podcast. À très vite.